Comme on a commencé depuis plusieurs dimanches, toujours dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 37 au verset 38. Il y a de cela quelques dimanches, notamment le 11, nous avions parlé de Matthieu le chapitre 24 et nous avions vu les signes de la fin, comment est-ce que Jésus s'était positionné. Et nous avons conclu en nous focalisant sur le verset 12 à 14, où le Seigneur disait, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Et dimanche dernier, le frère Adrien vous a encouragé. Et l'une des choses sur lesquelles il vous a encouragé, c'est aussi l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quel est le lien avec le texte de ce matin? On redescend un peu plus bas dans l'évangile de Matthieu, et on voit comment Jésus lui-même a vécu ce verset 14, quand il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Comment Jésus a marché, comment il a servi, comment il a manifesté le fait que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Et c'est là que nous allons lire ce texte de ce matin. Il est dit à partir du verset 35, j'ai mis 37 parce que c'est les deux derniers versets qui focalisent, mais ça commence à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voici le texte qui va nous conduire ce matin dans notre exhortation pour que nous soyons enrichis, encouragés, enseignés de la part de Dieu. Lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, et c'est ce que je vous ai invité à faire, on a la vie de Jésus. On a son ministère. Comment il a servi, lui, le Fils de Dieu. Et quand on lit ce verset 35 de Matthieu 9, ça rappelle un autre verset, dans Matthieu 4, verset 23, qui dit pareil. Puis, parcourant toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus était dans l'action, dans l'enseignement. Quand on regarde le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, là on voit Jésus qui enseigne. On a commencé cette série avec l'enseignement de Jésus dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5. Les béatitudes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On a vu un certain nombre d'enseignements de Jésus sur la foi par rapport à la loi. Et les gens qui écoutaient Jésus finissaient toujours par dire, et c'est ce qu'on retrouve au chapitre 7, verset 29. Car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme l'un de leurs scribes. Quand Jésus finissait de prêcher, les gens disaient, mais c'était comme si c'était lui qui avait écrit les parchemins de la loi. Son enseignement était clair, était précis, était concret, était vivant. Et personne ne pouvait rester indifférent. Et la conclusion, c'était, il enseigne avec autorité. La notion autorité ici, c'est comme pour dire, il enseigne comme si c'est lui qui était l'auteur de ce livre. Qui mieux que l'auteur d'un livre peut parler de son livre? Qui mieux que l'auteur d'un discours peut parler de son discours? Qui mieux que l'auteur d'un enseignement peut être à même de dire clairement son enseignement? Jésus, Fils de Dieu, enseignait comme ayant autorité. Quand on continue du chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, on voit Jésus dans l'action, enseignant, mais aussi au contact concret avec les gens qui nous sont présentés ici comme cette foule de personnes qui l'entouraient. Et Jésus, pendant qu'il traversait ces villes, pendant qu'il parlait avec ces gens, pendant qu'il vivait avec eux, n'était pas indifférent de leur malheur, de leur souffrance, de leur pauvreté. Il était toujours dans l'action. Toujours dans l'action. Il n'était pas de ceux qui disent « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. » Jésus était capable de dire « Faites ce que je fais. » Parce que ce que je fais, c'est donner ma vie pour ceux que j'aime. Et donc, dans cette section du 8.1 à 9.35, on voit Jésus dans l'action. Jésus guérissant des malades. Jésus accomplissant des miracles avec puissance. Et ces signes, comme le disent les évangiles, ces signes étaient les signes qui voulaient dire ce qu'il était. Il était le Messie, celui dont avaient parlé les prophètes. Les prophètes avaient dit que le Messie ferait des signes. Les aveugles recouvraient la vue, les sourds entendraient, les boiteux marcheraient. Et Jésus a accompli. Il a même guéri des lépreux, maladie incurable. D'alors, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore pas toujours curable, cette maladie. Et Jésus guérissait totalement les lépreux. Jésus enseignait et manifestait en même temps la pratique de son enseignement. Et donc, ce passage commence en nous disant, au verset 35 justement, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages de la Palestine d'alors, parce qu'il était venu pour toutes ces personnes, il était dans l'action, il était sur le terrain, il n'était pas derrière un bureau, dans une maison enfermée, en voyant les 12, allez là, allez là, allez là, il était devant eux, ils allaient ensemble. Je vous apprends rien, il n'y avait pas de véhicule à cette époque, tout se faisait à pied, les plus riches avaient des chevaux, Jésus n'avait même pas un cheval. Les plus modestes avaient des mulets, des ânes. Jésus n'en avait pas. Il faisait tout à pied, par amour, pour être au concret du contact avec les hommes et les femmes, de tout niveau social. Quand on lit ce verset 35, on voit, tu peux afficher, on voit encore là les trois natures du ministère de Jésus. L'enseignement, la prédication et la guérison. L'enseignement, c'est donner une leçon de vie aux gens de façon très structurée en leur montrant de A à Z comment ils doivent avancer, maturer, grandir dans ce que Dieu attend d'eux. C'est ça l'enseignement. La prédication, c'est une partie de l'enseignement où on met l'accent sur quelque chose de précis, là et maintenant. Et Jésus l'a fait dans beaucoup de situations. On lui posait une question, on lui présentait une situation, et c'était l'occasion pour lui de faire une prédication, une exhortation. Quand Jésus prend celui de faire un enseignement, c'est lui qui a l'initiative, comme dans Matthieu chapitre 5. On dit il était sur cette colline, et la foule était là, et Jésus commença à enseigner. Et on a tout ce long enseignement, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, jusqu'au chapitre 7, où Jésus part du début de la foi jusqu'à comment un croyant doit se construire, jusqu'à le retour de Dieu. C'est frappant, n'est-ce pas? On a cette répétition que Jésus, par son enseignement, par sa vie, impactait les gens, guérissait. Et dans la notion de guérison ici, le salut, la notion sozo qu'on a en grec, c'est aussi la notion de la guérison. Le salut, c'est la guérison. La guérison de nos âmes. Jésus était d'abord venu pour guérir les âmes avant de guérir le corps. Bien sûr, il n'était pas indifférent face aux maladies corporelles, physiques que les gens vivent. Il en a guéri un bon nombre. Mais ce qui était au cœur du ministère de Jolie, ce n'était pas cette guérison d'abord physique, c'était la guérison de l'âme. Parce que c'est celle-là qui est éternelle. Parce que notre corps, notre vie humaine a un terme. Mais notre âme a été créée pour l'éternité. Jésus transmet son autorité aux disciples, d'abord aux 12. Quand on lit ce récit, on voit que Jésus, à un moment donné, et on va le voir à partir du chapitre 10 par la suite, ce qu'il a fait, il dit aux disciples, donc aux 12, vous êtes aussi capables de le faire. Il leur transmet son autorité. Et on voit par la suite que les 12 y vont, et ils font pareil, comme le maître. Jésus fait l'état des lieux. À partir du verset 36, il a parcouru toutes ces villes, il a parcouru tous ces villages, et à partir du verset 36, l'état des lieux tombe. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est ça son constat. Jésus est Dieu, il est le roi du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant c'est un roi serviteur, un roi qui se rend même esclave de ses sujets. Ce n'est pas le roi qui domine, ce n'est pas le roi puissant qui écrase, c'est le roi qui vient plutôt tenir la main de chacun, quelle que soit la position sociale, mais encore plus des plus faibles. Et là, il voit une foule. Et le texte dit qu'il fut ému de compassion. Le thème compassion ici, c'est ses entrailles, tout son être entier, son empathie, sa sympathie, cette douleur de voir ceux qu'il appelle la foule dans cet état spirituel d'abord. Il est tout ému, il est tout rempli de cette douleur. Parce que ces gens étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Elles étaient dispersées, errantes, mais pas que. Elles étaient fatiguées. Elles étaient gisantes, comme blessées. Comme cette culture que nous ne connaissons pas, mais une brebis qui n'a des brebis, donc un troupeau qui n'a pas de berger. C'est un troupeau de brebis qui est sans direction, qui est sans protection, qui est sans nourriture, parce qu'elle n'a point de berger. À la différence de d'autres animaux qui, eux, sont capables de suivre et de chercher leur propre subsistance, la brebis n'a pas cette capacité-là. C'est un animal qui a besoin de direction, de conduite. Nous ne sommes pas des animaux, c'est pas ça l'idée. Mais la comparaison, c'est que nous ne savons pas, nous, toujours, ce qui est bien pour nous. Nous ne savons pas toujours ce qui est bien pour nous. Et nous ne connaissons pas nos lendemains. Donc, quelle que soit la direction que nous pouvons prendre, nous ne savons jamais ce qui nous attend. Et nous avons donc besoin de direction, de conduite. Le texte dit, quand ils diront paix et sécurité, le malheur s'abattra sur eux. Nous avons besoin de protection. Au jour du malheur, nous avons besoin de protection. Au jour de l'épreuve, nous avons besoin d'un appui suivre, de quelqu'un de confiance. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Tu peux passer la diapo d'après. Merci. On a des textes de l'Ancien Testament qui disent la même chose. Ces textes qui nous montrent des brebis qui n'ont pas de berger. Israël était comme cela. Nombre 27, déjà, Moïse disait que le Seigneur, le Dieu qui dispose du souffle de toute créature, désigne un homme qui sera à la tête de la communauté, qui sortira et qui rentrera devant eux, qui les fera sortir et les fera rentrer. Ainsi, la communauté du Seigneur ne sera pas comme des moutons sans berger. Mais qui est le bon berger? Jésus. Je suis le bon berger. C'est ce que Jésus dit. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et la suite du verset dit, parce que le mercenaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la vie des brebis, c'est son salaire. Je suis le bon berger. Et Pierre dit dans son épître, au chapitre 5, 1 Pierre 5, verset 4, alors quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Quel que soit le ministère, parce que dans Éphésiens 4, on a un ministère qui s'appelle ministère de pasteur, donc le pasteur ici, c'est l'autre nom du berger. Quel que soit le ministère pastoral que les hommes peuvent avoir, c'est pas nous les bons bergers. Nous sommes de petits bergers par délégation. Mais le grand berger, le berger suprême, le bon berger, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous sommes invités dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Nous sommes invités à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était l'égal de Dieu, qui n'a pas regardé être l'égal de Dieu, mais qui s'est abaissé, qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour accomplir l'œuvre de son Père. Alors le disciple, celui qui a donné sa vie à Dieu, celui qui a été touché par l'Esprit de Dieu, celui qui s'est ouvert à la plénitude de l'Esprit, bah celui-là finalement, doit être aussi touché, doit aussi vivre ce même sentiment que Jésus, la compassion. La compassion. Cette compassion qui animait Jésus-Christ. On voit quand on a ce récit que le moteur de l'action de Jésus, c'était pas les miracles, c'était pas la gloire de son nom, c'était pas qu'il voulait être la superstar de cette époque de notre histoire. Non. Le texte dit, il était ému de compassion. Ce qui faisait carburer Jésus, c'était la compassion. Cette empathie de voir, d'être là, d'encourager, d'être au cœur de chaque situation de ceux pour lesquels il était venu. Et devant ce constat, devant cette réalité de cette foule languissante et abattue, comme des bébés qui n'ont point de berger, Jésus va finalement faire une déclaration aux disciples. Au verset 37. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, il faut du renfort, la prière, c'est Dieu qui dirige. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, dans les textes anciens, dans l'Ancien Testament, représentait le jugement. Le temps où Jésus, où Dieu vient juger, vient séparer le bon du mauvais. Et Jésus reprend cette image lui-même dans l'évangile, toujours de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 35, on peut lire, il répondit, celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Il est en train d'expliquer la parabole du semeur. Il répondit, celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La moisson, c'était le jugement. Par contre, dans ce texte de Matthieu, toujours dans ce Matthieu, mais dans ce texte de chapitre 9, c'est pas le jugement. C'est plutôt l'empressement. La moisson est grande. Il dit, je vois que les gens sont languissants. Ils sont prêts à accueillir Dieu dans leur cœur. C'est l'empressement que les hommes ont à répondre à l'évangile de Jésus-Christ pour échapper à la colère à venir. Il dit, je vois des hommes et des femmes qui ont compris que le malheur va venir et qui veulent trouver une solution pour échapper à ce malheur. Ils sont prêts, ces gens, à être moissonnés. Les ouvriers que Jésus va envoyer, c'est pas ceux du Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, il dit, j'enverrai des anges. Ceux-là, c'est eux qui viendront pour le jugement. Mais ceux qui sont là pour cette moisson, plutôt dans le bon sens du terme, pour récolter ceux qui sont prêts à être sauvés, il dit, c'est des hommes, c'est des femmes qui seront ces moissonneurs et ces moissonneuses, qui vont aller près de d'autres hommes, près de d'autres femmes, pour les aider, au travers de la parole de Dieu, à échapper, justement, au jugement. La moisson est grande, et il y a peu d'ouvriers. Déjà, en Palestine, où Jésus était, voyant la grandeur de ce petit bout de terre, les 12 étaient déjà dépassés par la mission. Il les a envoyés les 12. Dans l'évangile de Matthieu, on le voit bien. Et dans d'autres évangiles, on voit qu'il envoie encore 70 autres. Et Jésus, son ministère terrestre, lui a pris 3 ans pour sillonner ce petit bout de terre. Et quand Jésus dit « la moisson est grande », en tant que fils de Dieu, certes, il a une vision territoriale de ce petit bout de terre, mais en tant que sauveur du monde, il voit toute l'humanité. La moisson est grande. Il faut du renfort. Il faut du renfort. Que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de ce texte. Les hommes et les femmes de notre siècle paraissent des gens et des femmes qui n'ont besoin de rien. Chacun va qu'à ses occupations. Je ne cesserai de le dire parce que c'est un spectacle, pas vraiment, mais je veux dire, c'est une condition de vie qui me marque toujours. À chaque fois que je vais dans une grande ville comme Paris, je vois que les gens, personne n'a le temps, chacun est affairé. Paris la belle. Et pourtant, dans ce même Paris, on trouve aussi des clochards. Incroyable. Dans ce même Paris, il y a des arrondissements, vous avez des immeubles pourris. Mais ils sont tous à Paris. Dans ce même Paris, vous avez des gens qui ne mangent pas à leur faim, mais ils sont à Paris. Donc, de façade, on peut voir un monde qui ne languit pas, qui ne gémit pas. On peut voir un monde... Non, je crois que le week-end nous a donné aussi de voir que c'est pas vrai du tout. Tous ces gens qui sont descendus dans la rue, à raison ou à tort, j'en sais rien, mais qui sont descendus dans la rue, c'est une foule. Tous ceux qui ne sont pas descendus dans la rue, mais qui ont la boule au ventre et qui ont des conditions de vie plus ou moins acceptables, parmi eux, beaucoup languissent aussi. Dans la sphère de ceux qu'on dirige, malheureusement, c'est aussi parfois un masque. Ils ont aussi leur souffrance et leur réalité. Je dis toujours, si ceux-là n'avaient pas de réalité de souffrance, pourquoi quand même, dans certains pays, le taux de suicide le plus élevé, c'est parmi les plus riches, ceux qui ont tout. Pourquoi ceux qui ont tout se suicideraient? C'est pas rationnel. Séparationnel. Parce que justement, notre condition humaine est au-delà de ce que nous possédons. Elle est d'abord dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons profondément. Jésus regarde ces personnes et il voit que leur cœur, malgré l'apparence, leur cœur est languissant et souffrant. Ils ont besoin d'une solution. Cette solution, c'est le Fils de Dieu. Que cette bonne nouvelle soit annoncée. La bonne nouvelle du Fils de Dieu. Mais qui? L'Épître romain dit, comment entendront-ils parler? Même s'ils même s'ils ont besoin de Jésus, mais comment le seront-ils? Comment entendront-ils parler de ce Jésus? Si personne ne leur parle. Mais pour qu'il y ait quelqu'un qui leur parle, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Mais pour qu'il y ait des gens qui se lèvent, il faut qu'il y ait des églises qui en parlent. Jésus dit la première des choses que nous sommes invités à faire. Verset 38. Priez donc. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson, l'œuvre est de Dieu. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a l'initiative. Et chacun, chacune, pour nous qui avons fait l'expérience de la conversion, nous pouvons dire avec sérénité, oui, c'est Dieu qui a pris l'initiative de me sauver. Je me rappelle exactement les circonstances de mon salut, comment Dieu est arrivé à moi. C'est lui qui l'a prise. Certes, il est passé par des hommes, des femmes, ou une église, ou des circonstances, mais c'est lui. Avec du recul, je vois que c'est lui. Et ça confirme qu'il me connaissait. Qu'il me connaissait. Et le prophète dit, il me connaissait depuis que mes parents ont conçu mon projet de vie. Et même si mes parents ne m'ont pas conçu volontairement, depuis que j'ai été conçu dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu me connaissais. Tu me connaissais. Comment entendront-ils parler? Nous vivons, pour nous qui sommes croyants, du fruit de frères et de sœurs, d'églises et de missions qui se sont levées parce qu'elles ont entendu l'appel de Dieu. Parce que cette prière n'est pas restée sans effet. Et ces personnes qui nous ont annoncé l'évangile, ces églises qui nous ont annoncé l'évangile, se sont levées. Et grâce à ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes, nous avons reçu le salut éternel. Et nous sommes dans la joie, parce que notre salut est acquis pour l'éternité. Ils ont travaillé juste un peu eux, et nous nous sommes rentrés dans l'éternité grâce à leur travail. Qu'allons-nous faire, nous, pour que d'autres aussi puissent rentrer dans cette éternité-là? La mort nous rappelle quelquefois, la mort d'un proche nous rappelle. Et nous qui l'avons vécu récemment, et quelques-uns d'entre nous qui l'ont vécu récemment, ça nous rappelle, ça nous donne des souvenirs, mais ça nous rappelle notre fragilité. Mais bien plus, ça nous rappelle que nous sommes pèlerins et qu'un jour nous partirons. Mais la question n'est pas, est-ce que nous partirons pas? Cette question, nous connaissons la réponse, nous partirons de toutes les façons. La question c'est, où partirons-nous? C'est celle-là, la question. Pour les plus jeunes, on dit, ouais, t'as le temps d'y réfléchir. Je suis pas sûr. Pour les plus anciens, on dit, dépêche-toi, parce que tes jours sont comptés. C'est vrai ou c'est faux, c'est pas toujours sûr. Mais l'idée, c'est que quand on est plus jeune, on est encore loin de ce jour. Quand on est plus ancien, on est plus proche de ce jour. Ça peut être une réalité humaine. Mais n'empêche que la question reste la même, quel que soit notre âge. Quand le jour du départ éternel arrivera, où iras-tu? Jésus dit, le royaume des cieux s'est approché. Luc chapitre 4, il dit, le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux s'est approché. L'apôtre Paul reprend ça dans sa façon, lui dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Car demain ne t'appartient pas. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Car tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Pour ceux qui sont là et qui n'ont pas fait cette paix avec Dieu, une invitation t'es adressé. réponds à cet appel de Dieu dans ton cœur. Jésus, Fils de Dieu, a payé le péché. Romains chapitre 3, verset 23 dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a même pas un seul qui, de par ses œuvres, pourra dire un jour, moi, j'ai tout fait bien. Ça n'existe pas. Par contre, Christ dit, j'ai payé le prix pour que quiconque croit en moi ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-toi à Dieu. Entends cette voix. Réponds oui et marche. Et l'Église est là pour t'accompagner dans cette marche-là. Pour nous qui sommes plus anciens, qui avons fait cette paix avec Dieu, qui avons été sauvés par cette grâce, le verset 38 nous concerne. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous devons non seulement prier, mais nous disposer aussi pour être la réponse à la prière. On ne peut pas toujours prier, Seigneur, envoie Solange. Seigneur, envoie Viviane. Seigneur, envoie Willy. Non. Seigneur, si tu veux, envoie-moi aussi. Et envoyer, parfois, on a cru que c'était loin. Non, envoyer, c'est pas toujours loin. Être à l'œuvre pour Dieu commence là où tu vis, là où tu es. Ça commence par prier pour ceux de ta famille qui ne connaissent pas Dieu. Les présenter devant Dieu. Implorer la grâce de Dieu pour qu'ils rencontrent le Seigneur. C'est la plus belle des missions qu'on peut avoir. Prier pour ceux de nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Il y a un zèle, il y a un feu qui ne doit pas nous quitter dans cette mission-là. Si vous n'avez pas encore eu ce feu, demandez à l'Esprit de Dieu de vous embraser par ce zèle, de prier pour que chaque membre de votre famille rencontre le Seigneur. Après, c'est leur décision à eux. Mais si vous le faites, Dieu créera des occasions. Dieu en créera. Soit par vous, soit par d'autres personnes. Dieu m'a fait la grâce de faire venir des gens à l'évangile qui n'étaient pas de ma famille, mais qui étaient des familles chrétiennes, mais qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, de leur sœur, de leur frère qui était chrétien, mais qui ont prié pour eux pendant des années, qui leur ont parlé de Jésus pendant des années, et moi j'ai été celui qui les a moissonnés, juste parce qu'ils étaient prêts, parce que quelqu'un priait pour eux. Moi je ne les connaissais pas à ce moment-là. Donc même si ce n'est pas par nous, mais nos prières, prépare le cœur. C'est pour ça que ta première mission, mon frère, ta première mission, ma sœur, c'est de prier pour ceux de ta famille qui ne connaissent pas Dieu. Il faut que ce feu-là, il faut que cet empressement soit toujours vivant en toi, que tu ne perdes pas ce désir de les voir sauvés. Souvent, ce désir, il est plus vif quand on est nouveau converti, n'est-ce pas? Et moi, je le sais, parce que c'était mon expérience. J'ai été touché par Dieu à l'université, on était en pleine année scolaire, j'attendais que l'été, les vacances pour me rendre en famille, parce que ma famille était à 600 km, pour annoncer l'évangile à tous mes frères, à toutes mes sœurs. J'avais déjà annoncé l'évangile à ma mère. Je lui ai écrit une lettre pour lui raconter tout ce qu'elle ne savait pas que je faisais comme bêtise. Tout ce que j'ai dit de mensonge sur le fils du voisin, pensant que c'était lui alors que c'était nous, ses enfants, qui l'avions fait. Je ne sais pas, mais j'étais inspiré de dire tout ça dans une lettre, longue lettre. Et puis finalement de lui dire, mais tout ça c'est derrière moi. Christ est rentré dans ma vie. Jésus a changé ma vie. J'ai compris. Mon cœur a été changé par Christ. Je t'invite, maman, toi aussi, à donner ta vie à Jésus. J'y étais pas, mais quand je suis rentré plus tard, on m'a dit qu'après la lecture de cette lettre, le dimanche qui a suivi, ma maman a cherché une église évangélique pour s'y rendre. Parce qu'elle a dit, ce fils-là, Dieu a fait ça dans sa vie, qu'il ait eu le courage de me dire tout ça et qu'il soit tourné vers Dieu. Je connaissais ce Dieu de façon religieuse parce qu'elle était dans une église plutôt religieuse. Mais de cette communion, elle la connaissait pas. Et quand elle s'est rendue dans cette église évangélique, elle a entendu l'évangile. Elle s'est tournée à Dieu. Et j'ai vu pareil pour mes frères. Et pendant ces quelques mois de vacances, quelques autres se sont donnés à Dieu, d'autres ont dit, on va y réfléchir. Mais j'étais, et je pense que c'est là, c'est le cas pour la majorité d'entre vous. Quand ce zèle est là, quand on découvre qu'on est à deux doigts du précipice de passer à l'enfer et que Dieu nous a secourus, on est empressé de faire en sorte qu'aucun des membres de nos familles n'aille en enfer, parce qu'on veut aussi que dans l'éternité, ils soient là-bas pour être heureux pour l'éternité. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi nous sommes ici en tant qu'église de Créteil? Parce que Dieu veut un cadre pour que les enfants de Dieu, des chrétiens, puissent avoir un espace pour enrichir leur foi, grandir dans la foi, mais aussi pour qu'ils puissent faire venir des femmes et des hommes qui sont en recherche de Dieu, pour que nous puissions leur annoncer cet évangile, pour que nous puissions les entourer de notre amour, mais bien plus pour que chacun de nous, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes de Créteil, nous nous levions, un, dans la prière, que nous puissions continuer de prier pour cette ville de Créteil, que nous puissions prier pour les villes là où nous sommes, pour Bonneuil, pour Limeil, pour Valenton, pour toutes ces villes où nous habitons. Prie, prie, que l'Église, lorsque nous nous réunissons les mardis, nous continuons de le faire. Et bientôt, avec une proposition au Conseil, nous allons avoir encore aussi un autre espace pour prier pour la mission à l'extérieur. C'est pas que les autres qui doivent se lever, c'est nous. Mais nous devons, avant de nous lever, être remplis de cette compassion. Jésus, ému de compassion, je prie que pendant que nous sommes là en train de vivre ces cultes, que Dieu, par son esprit, agisse dans nos cœurs. Que nos cœurs soient des cœurs de chair, des cœurs remplis de compassion les uns pour les autres. Que Dieu nous aide, que notre amour soit un amour concret, véritable et réel. Que jour après jour, nos cœurs soient changés dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations de frères et sœurs, dans l'Église, remplis de compassion. Que nous soyons là dans les moments heureux des uns et des autres, mais que nous soyons là aussi dans les moments difficiles les uns et les autres pour nous soutenir, nous bénir, nous enrichir, nous porter. Si on peut terminer ce temps de prédication avec l'avant-dernier chant, il n'a pas pareil. Pas le chant que vous avez chanté avant la prédication, celui que j'ai chanté un peu avant. Si on peut chanter ce chant pendant que l'Église est en prière pour répondre à Dieu. Un cœur rempli de compassion, une mission à nous lever dans la prière pour que d'autres puissent aussi goûter à l'éternité.